Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard le 17 juin 1992.
Excusez le retard. Ce déconnant coup de téléphone. Alors, c'est très difficile les coups de téléphone. C'est une impolitesse remarquable. Parce que ça passe au-dessus des ponts. Ça fait un pont aérien par rapport à tout le reste. Alors, nous allons continuer la réflexion sur cette éthique religieuse. Comment la vertu de religion transforme l'exercice de la vertu de force pour lui permettre d'aller jusqu'au bout des exigences de la vertu de force. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est que l'aspect religieux est essentiellement humain. Donc, l'éthique religieuse va nous montrer le développement de la vie humaine dans ce qu'elle a à la fois de plus profond, de plus radical et ultime. À la différence de l'éthique chrétienne qui, elle, dépasse complètement le point de vue humain et donc a sa structure au-delà du point de vue humain. Mais elle met l'humain au service du divin. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est très important de bien saisir ça. Et c'est en voyant ces niveaux qu'on peut bien saisir. Et à l'égard des vertus cardinales, ce que je vous disais la dernière fois, c'est particulièrement visible. La manière dont la vertu de religion transforme la prudence, la manière dont dont la vertu de religion transforme la justice, la manière dont la vertu de religion transforme la force. Alors, comprenons, ça ne transforme pas le caractère spécifique de ces vertus. Elles restent des vertus cardinales. Mais ça transforme l'exercice de ces vertus. C'est-à-dire l'homme prudent, religieux, connaît une exigence toute nouvelle comparativement à l'homme prudent, non religieux. L'homme prudent, l'homme juste, religieux, connaît des exigences toutes nouvelles, beaucoup plus radicales, comparativement à l'homme juste, tout court. L'homme vertueusement fort, religieux, dimension dans l'exercice de sa force, toute nouvelle. Il y a un champ d'action, si vous voulez, pour que vous compreniez bien. On dirait aujourd'hui, dans un terme moderne, l'horizon de l'homme vertueusement fort est modifié en fonction de la vertu de religion. Je dis l'horizon, parce qu'on ne sait jamais exactement ce que c'est. Alors, je traduis dans un langage plus précis, parce que l'horizon, ici, l'horizon est différent. Je traduis un langage plus précis en disant l'exercice de la vertu de religion connaît un développement très nouveau grâce à la vertu de religion. Mais son caractère propre de vertu de force reste le même. L'homme fort reste un homme fort, et vertueusement fort. Mais l'exercice est changé. Alors, l'horizon, on ne sait pas si c'est du côté objectif, si c'est du côté spécifique. exercice, c'est les deux en même temps, l'horizon. Moderne, un philosophe moderne parle de l'horizon. Regardez bien. C'est pas horizontal, c'est l'horizon. Ça veut dire que le champ d'action de la vertu est nouveau. Il y a un champ d'action nouveau. C'est quand même très important à bien comprendre ça. C'est sûr qu'un homme religieux a un horizon tout à fait différent qu'un homme qui n'est pas religieux du tout. Et vous comprenez tout de suite. Parce qu'un homme religieux est toujours en relation plus ou moins directe avec le Dieu créateur. Alors, ça change complètement l'horizon. La musique de fond est différente, si vous aimez mieux. Parce qu'elle est complètement différente, la musique de fond. Puisque c'est, de fait, une relation profonde de l'homme à l'égard de l'au-delà. À l'égard d'une réalité personnelle qui est le Créateur, à la fois la source et ce vers qui je vais. Donc ça change tout, au point de vue horizon, au point de vue ouverture d'esprit, ouverture d'activité. Il y a toute une quantité de choses nouvelles qui apparaissent. Mais la vertu comme telle, l'acte humain de la vertu de force est toujours la vertu de force. C'est le propre des vertus cardinales, du reste. Et vous avez dit que les vertus cardinales ont ceci tout à fait particulier, que c'est l'œcuménisme philosophique. Toutes les philosophies reconnaissent les vertus cardinales jusqu'à nouvel ordre. Ça commence à trembler. Oui, parce que dans un libéralisme absolu, il n'y a plus de vertu. Mais quand on dit qu'il n'y a plus d'esprit, je ne sais pas ce que devient la vertu, parce qu'il n'y a plus de raison. Alors, c'est un équilibre. Ça ne devient plus qu'un équilibre. Il n'y a plus de finalité. Dès qu'il n'y a plus de finalité, l'éthique disparaît. Hein, ça, très très vite. Il y a des vieux restes de meubles. Ces restes, pans de murs. Qui reste, mais ça ne durera pas longtemps, parce que les pans de mur sans finalité, ça ne dure pas. Alors il y a encore des vieux restes de tradition, de patrimoine humain, comment dire aujourd'hui, de culture, qui restent. Mais la culture ne tient pas par elle-même, hein, faut pas l'oublier. C'est pas la culture qui fait tenir l'homme, c'est l'homme qui fait tenir la culture. Quand on est tout gosse, on est tenu par la culture. Mais dès qu'on n'est plus, on est adulte. On est porté par la culture dans notre fragilité. Et on porte la culture, normalement. On fait avancer. Alors quand il n'y a plus de finalité, il y a une culture qui peut rester pendant un certain temps et qui très vite disparaît. Alors on est devant un libéralisme absolu. Et le libéralisme absolu supprime la finalité. Parce que c'est l'homme qui doit être le centre. Les Grecs disaient, il y avait deux perspectives. C'était où l'homme mesure de toute chose. Et quand l'homme se dit mesure de toute chose, tout se ramène à lui. Et donc c'est lui qui, d'une certaine manière, joue le rôle de fin, de finalité. Au contraire, l'homme cherche à aimer, il cherche une réalité qui le finalise. Ceci, c'est pour vous remettre dans le bain de cette éthique religieuse. Il faut l'aborder chaque fois un peu différemment. Hein. Parce que chaque fois, il y a quelque chose qui apparaît de nouveau par rapport à la vertu de force. Je vous disais que la vertu de force, c'est de rester debout. C'est symbolique. Rester debout en face d'un danger imminent de mort. Quelqu'un qui n'a pas la vertu de force, qui n'est pas fort, dès qu'il est en face d'un danger imminent puisque je faisais partie des récupérés. Donc, on avait été attaqué, bombardement, la veille de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu sous forme de langue de feu. C'était des bombes incendiaires. Il y en avait une qui tombait à 5, ah, 10 cm de moi. Et qui s'est enfoncée dans la craie, parce que c'était un terrain crayeux. Évidemment, je me suis un peu éloigné. Et j'avais à côté de moi un type qui était de ma chambre. Qui, pauvre homme, il sortait d'un asile. On l'avait récupéré. Et avant, il avait été en prison. Il était du Nord. Et quand j'ai demandé son métier, il m'a dit « Je suis crocheteur ». On sait très bien ce que ça veut dire. Et alors il m'a dit « Que voulez-vous aujourd'hui ?» Un jour, il n'y avait rien dedans, alors je mourrais de faim. Et j'ai pris un morceau, j'ai pris un pain à la boulangerie. Quand j'étais condamné, j'ai dit « Monsieur le juge, vous auriez été mal dans ma condition, vous auriez fait comme moi. » Alors j'ai dit « Oui, mais la différence, c'est qu'il ne fallait pas se mettre dans cette condition. » Il dit « Je ne pouvais rien. » Alors, avec les bombardements, c'était les avions sirènes qui attaquaient les nerfs avec une force très très forte. Il dégringolait comme ça. Et comme c'était d'étrangères libres, on était bien situés. Alors, il avait trouvé comme situation de se mettre à plat ventre dans la tranchée. Comme j'étais curé, j'étais un paratonnerre. Alors il se mettait entre mes pieds. Et là, je suis tranquille. Là, je suis tranquille, je suis sûr qu'il n'y a pas de danger. Je dis, mais non, c'est très dangereux. Tu vois pas que tu donnes une surface beaucoup plus grande à la bombe que quand on est debout. Oui, mais il faut se tenir debout. Il était incapable de se tenir debout. Alors à chaque fois que l'avion sirène passait, il y avait des sauts de carpe. On comprend ce que c'est que la force, alors, à ce moment-là. Vous voyez, il faut se tenir debout en face d'un danger imminent de mort. C'est évident. Chaque fois qu'il passait, il y avait 400 avions. Il y avait un vieux capitaine qui était là. Il m'a dit, j'ai fait toute la guerre de 14, j'ai jamais eu aussi peur que cette fois-ci. Il n'y avait rien, rien pour nous défendre, mais rien du tout. Si ce n'est une mitraillette. En tout et pour tout. Et rien. Alors il s'est défoncé comme ça. La veille, il y avait un avion qui était tombé. Et on avait découvert dedans des cartes extrêmement détaillées du camp dans lequel j'étais, le camp Avor, qui était infanterie et aviation, séparé par une tranchée dans un terrain crayeux où il y avait de l'herbe. Alors on voyait une grande ligne blanche dans laquelle se trouvaient les hommes. Alors quand j'avais vu ça, j'avais dit, on faisait des exercices, on lui dit, mais écoutez, vous êtes fous de faire ça, vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on soit tous tués dans la tranchée? Il m'a dit, mais pourquoi? Mais vous voyez pas que aucune défense, et on est là en plein milieu, caché tout dans les arbres, n'importe où. Il faut mieux être à l'air libre derrière les arbres que dans cette tranchée. Il n'a pas compris. Alors vraiment, la veille de la Pentecôte, c'était une liturgie assez mouvementée et assez réaliste. Vous savez, c'était quand même assez bien. Depuis 4 heures du matin, donc. Entre vendredi, samedi, 4 heures du matin, jusqu'à 11 heures du matin. Entre deux, un moment de calme, j'étais vite dire ma messe. Entre deux, j'ai hésité de rester dans la chapelle. Je me suis dit, non, il faut être au milieu des hommes, puisque c'est dangereux. Alors j'ai été. Et à la fin, 11h, j'étais voir. La chapelle était en feu. J'ai essayé d'entrer pour sauver le Saint-Sacrement. J'ai fait 3 pas dedans. Je me suis dit, je vais être asphyxié, c'est pas la peine. Alors je suis rester à la porte en attendant que l'hôtel brûle, que le ciboire brûle, en priant. Ça reste un spectacle, ça. Quelque chose. Alors, voyez ce que c'est que la vertu de force. En face d'un danger de mort, rester debout. c'est pas très digne de se mettre à bas blanc et puis de sauter comme une carpe à chaque moment. C'est pas très digne. Mais est-ce que la dignité humaine suffit à ce moment-là pour maintenir une lucidité et une conscience qu'il faut offrir sa vie? Je crois que c'est très limite. C'est très limite. Parce qu'il n'y a pas de finalité. Donc on n'a pas un roc sur lequel on s'appuie. Tout demeure en nous. Et quand tout demeure en nous, toutes nos forces sont en nous. On a beau l'immobiliser, le capital de force qui est en nous est quand même limité. Est terriblement limité. Et quand la passion de peur, de crainte, s'empare de nous, on a beaucoup de peine à résister. Je sais bien, les stoïciens, la philosophie stoïcienne, habituer les hommes à résister à cela. Vous voyez, il y en avait dans le nazisme, il y avait la même chose. On éduquait, on élevait les nazis à ne pas trembler devant la souffrance des autres, de rester impassible. On commençait par les animaux, puis après c'était les hommes. Et en face de quand on faisait s'ouvrir les gens, il fallait rester impassible. Il fallait couper tout le lien de sensibilité affective qu'il pouvait y avoir. Et petit à petit, comme ça, on arrivait à faire, est-ce que c'était encore des hommes? Rester complètement impassible devant le danger de la mort, je ne sais pas si c'est encore humain. C'est humain s'il y a un dépassement. C'est un dépassement par rapport à la source de notre vie, qui est Dieu. Et s'il n'y a pas de dépassement, c'est supprimer toutes les passions affectives. Donc c'est devenir un bloc de marbre, complètement impassible. Du reste, c'est ce que les stoïciens considèrent, puisque les stoïciens considèrent que toute passion est mauvaise. Donc il faut la tuer, il faut la supprimer. Alors à ce moment-là, on devient un bloc de marbre. Mais ça, c'est pas humain. Les passions, c'est ce qui nous lie aux autres. Le côté affectif, sensible, qui nous lie au monde, qui nous lie à nous-mêmes. C'est toutes ces émotions que nous ressentons alors quand ces émotions sont trop fortes et que nous n'arrivons pas à les contrôler, à les offrir en vue du but et du sens de notre vie. Alors c'est mauvais. On est complètement inhibé par ça. Mais quand nous arrivons à les éduquer suffisamment pour s'en servir en vue de notre fin, en vue d'un amour spirituel, alors là c'est très bien. C'est magnifique. Parce que l'amour humain implique les passions. Et des passions qui sont dominées par le point de vue spirituel et qui permettent à ce moment-là d'être un acte de choix volontaire vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime, d'un ami ou de Dieu. Si on considère qu'il y a Dieu, si on considère qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous qui nous porte, alors à ce moment-là on peut s'en remettre à lui. Je crois que c'est ça que fait la vertu de religion. C'est ce dépassement par rapport à la réalité première que nous appelons Dieu selon les traditions religieuses. S'en remettre à lui parce qu'il est un père qui a créé notre âme et qui a une sollicitude spéciale vis-à-vis de notre âme. Et donc on peut s'en remettre à lui. On peut dépasser tout ce qu'il y a comme charge affective en nous, charge émotive en nous, dépasser tout cela pour remettre tout volontairement entre les mains de Dieu. Et on s'offre, s'offrir soi-même en face d'un événement qui nous dépasse complètement et devant lequel on ne peut rien. Oui, c'est très proche de ce que, en éthique chrétienne, on appelle le martyr. Alors, la question se pose, pouvons-nous parler de martyr en éthique religieuse? C'est une question intéressante, point de vue proprement éthique. Ou est-ce que le martyr est propre à l'éthique chrétienne? Ou est-ce que l'éthique religieuse permet le martyr? Offrir sa vie, est-ce que c'est toujours un martyr? Ou offrir sa vie, c'est donner un sens à notre mort? Donner un sens à notre mort, ce n'est pas encore un martyr. Donner un sens à notre mort, c'est aller jusqu'au bout de la domination volontaire sur nous-mêmes. Volontairement, on offre sa vie. On fait un acte d'amour par rapport à Dieu pour offrir sa vie. Le martyr, au sens fort, est témoin pour les autres. N'est pas que l'offrande de sa vie. Il faut que l'offrande de notre vie prenne valeur de témoignage. Pensez à Socrate qui offre sa vie par respect des lois pour ne pas paraître quelqu'un qui enfreint les lois et au nom respect des lois, il offre sa vie. Alors, Socrate est d'une certaine manière témoin. Et en éthique grecque, Socrate a joué ce rôle de témoin, sans vous pas le nier. Dans l'éthique stoïcienne, Socrate est invoqué constamment comme le témoin. En éthique aristotélicienne également. Socrate était le témoin de quelqu'un qui a une dignité humaine telle qu'il respecte les lois, parce que ces lois viennent des dieux. Et donc derrière les lois, il y a le respect à l'égard des dieux. Alors là, on peut dire que le respect devient un témoignage. Et offrir sa vie pour respecter les lois, parce que les lois viennent de Dieu, c'est un certain martyr. Donc voyez bien la différence entre offrir sa vie en holocauste, en sacrifice, pour obéir à sa propre conscience, et donc obéir à ce qu'on considère comme ce qu'il y a de plus secret en nous et de plus profond en nous, notre conscience humaine, religieuse. On offre sa vie. Quand on offre sa vie pour témoigner que l'amour de Dieu sur nous est plus grand que toutes les oppositions, toutes les souffrances, toutes les attaques qu'on peut nous faire, à ce moment-là, on vient témoin de la providence divine. Et on témoigne par sa propre mort que Dieu veille sur nous et que Dieu nous aime et qu'il veille sur nous. On témoigne de la sollicitude de Dieu sur nous. Et témoigner de cette sollicitude de Dieu sur nous, c'est quelque chose de très grand. Surtout en offrant sa vie, en donnant comme témoignage sa vie. Et pour qu'il y ait martyr, il faut qu'il y ait témoignage. Alors, je crois qu'on peut dire qu'en éthique religieuse, il peut y avoir un témoignage. Dans certaines circonstances, que l'offrande de notre vie peut devenir un témoignage. Et comme exemple, je prendrai Socrate. Parce que là, sûrement que Socrate représente ça dans l'Ancien Testament. Puisque dans l'Ancien Testament, de laisser passer le temps. C'est pas la même chose. On se tait, on fait la planche, puis ça passe. Et quelquefois, c'est la seule chose à faire. C'est pas du tout condamnable, c'est pas du tout une attitude de poltron. C'est l'attitude de celui qui juge qu'il n'a pas à perdre sa vie pour tel ou tel événement. Point de vue politique, par exemple. Devant certaines révolutions politiques, est-ce qu'on doit nécessairement prendre parti? Point de vue purement politique. Et demain, il y a la révolution. Est-ce que nécessairement on doit prendre parti? C'est purement humain et politique humaine. Absolument sûr. Est-ce que vous devez donner nécessairement votre vie pour un homme politique? Je sais pas. Si c'est des problèmes de conscience, de prudence et de prudence religieuse, alors quand la loi est divine, c'est autre chose. Vous voyez, les fils de la mère admirable dans le livre des Maccabées. Et on considère comme martyr pour observer la loi. Alors je sais très bien que derrière cela, il y a le point de vue de l'adoration à l'égard du seul vrai Dieu. Alors à ce moment-là, on trouve la note tout de suite religieuse dans ce qu'elle a de plus fort. Faire un geste, brûler l'encens en face d'une statue d'un empereur ou en face de quelque chose qui exprime purement une autorité temporelle, ce serait non plus adorer le vrai Dieu, mais ce serait adorer une idole. L'adoration de l'idole peut être prescrite par la loi. Il faut adorer l'empereur. Et si vous n'adorez pas, vous mourrez. Alors ne pas adorer l'empereur et adorer dans son cœur le seul véritable Dieu. Alors là, on peut accepter le martyr et on devient témoin qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et qu'on n'a pas adoré des idoles. Vous voyez ? Donc, au plan purement religieux, il y a toute une série de niveau de respect d'une loi religieuse qui témoigne de la présence.